Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 115. Mon invité aujourd'hui est Sophie Peters. Sophie est psychopraticienne, thérapeute systémique, consultante en entreprise, en plus d'être une journaliste, animatrice pendant plus de 10 ans sur Europe 1, chroniqueuse au Monde et auteure dans son livre « Du plaisir d'être soi » paru en 2015, nouvelles éditions François Bourin. Dans cette conversation avec Sophie, nous discutons du plaisir, les voies pour se donner du sens et être soi-même, et cela au travail. On décortique pourquoi la performance est une valeur factice et bien d'autres sujets essentiels pour le bien-être en entreprise. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Sophie Peters, un grand plaisir de vous rencontrer, enfin en tout cas de vous avoir sur mon podcast grâce à notre ami en commun Hervé Franceschi, qui est un homme extraordinaire. Et donc Sophie, vous êtes psychoanalyste, vous êtes journaliste, vous parlez beaucoup du besoin d'être soi. Vous avez écrit un livre que j'ai adoré, que je vous prie tous de prendre, « Du plaisir d'être soi », petit traité de navigation intérieure. Sophie, dans vos mots à vous, comment est-ce que vous préférez vous présenter ?
Merci Minter déjà de m'accueillir voilà, dans votre émission, je suis très touchée. Et j'ai beaucoup aimé, là, juste dans votre courte introduction, vous avez parlé du besoin d'être soi. Ça m'a beaucoup plu, je me suis dit, mais oui, finalement, c'est un besoin d'être soi-même et c'est même une douleur quand on n'arrive pas à répondre et à nourrir ce besoin. Alors voilà, je ferme la parenthèse, mais comme le titre du livre, c'est « Du plaisir d'être soi », on aurait pu l'appeler « Du besoin d'être soi » ou « De l'intérêt d'avoir besoin d'être soi ». Et c'est un vaste sujet. Comment j'aime me définir ? Alors, j'ai inventé un mot pour me définir, voilà, que j'ai mis sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « Écoutologue ». Log, c'est le logo, c'est le lieu. Et donc écoute, et je me sens un lieu d'écoute, voilà, un espace où on peut venir parler, recueillir et écouter sa propre parole, parce qu'il n'y a pas que moi qui écoute, c'est aussi le patient qui s'écoute, c'est l'autre qui écoute ce qu'il dit, et parce que je l'écoute, il peut s'écouter. Donc c'est très beau l'écoute, c'est amusant parce que j'écoute beaucoup, enfin, j'aime bien voir souvent la radio allumée quand je me prépare le matin, et nous sommes le matin, et j'écoutais une émission ce matin, et une actrice de théâtre disait finalement, mon métier c'est de l'écoute. Et je dis, ah oui, ça c'est magique, elle dit finalement quand sur scène on écoute son partenaire, enfin ou sa partenaire, là sur la scène, bah, tout vient tout de suite. On n'a aucun effort à faire, le texte est là parce qu'on est dans l'écoute de l'autre. Et celui qui se sent écouté, du coup, est aussi très bon acteur. Et je dis, c'est magnifique parce que finalement, sur une scène, ben, il joue des personnages et nous, dans la vie, qui jouons aussi quand même un peu, mais qui sommes aussi nous-mêmes, on a tellement besoin de cette écoute. Et peut-être que dans ces temps difficiles de pandémie mondiale, ben, on en a encore plus besoin et c'est peut-être ça dont on prend conscience. Alors, pas forcément une écoute comme celle que je pratique, enfin une écoute professionnelle, parce qu'il y a celle-là, mais il y a l'écoute de tous les jours, il y a l'écoute que chacun pratique. Et en écoutant cette comédienne, je me disais, mais finalement, si je devais transcrire ce mot d'écoute, le traduire, quel autre mot, qu'est-ce que je connecte, à quoi je pense? Et je me suis dit, bah, à la présence. Je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui nous permet d'écouter ? Je me suis dit, c'est la qualité de présence. Et pour être présent, bah, il faut pouvoir avoir, bien rangé sa pièce intérieure, quoi, qu'il n'y ait pas de foutoir partout, que l'espace ne soit pas trop encombré. Quand on est trop encombré, si je suis trop encombrée de mes soucis, je ne peux pas vous écouter. Et pareil pour vous, et réciproquement, j'ai envie de dire. Donc, voilà, donc cette notion d'encombrement d'espace m'est très chère finalement. Et je me dis que bah, ce terme d'écoutologue me plaît bien parce que le logos, le lieu, finalement me plaît autant que l'écoute puisque c'est un lien entre présence et attention. Attention à l'autre, attention à soi.
Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je pense évidemment à Viktor Frankl avec la logothérapie.
Ouais.
Je pense à l'encombrement du temps, donc l'attention, et pour ne pas parler que du lieu, la capacité d'être présent, ça veut aussi dire ne pas encombrer tant par son passé, ni les peurs et les craintes de l'avenir. Donc, pour arriver à être présent, donc cet encombrement aussi, donc défricher les choses pour pouvoir être dans l'écoute. Et quand j'adore cette expression d'écoutologue, je vais certainement vouloir l'emprunter, je fais souvent des exercices qui s'appellent des empathy circles, des cercles d'empathie. C'est un dialogue construit où on est obligé de reformuler ce que l'autre dit alors qu'on n'est pas forcément d'accord. Et ce qui est étonnant, coup après coup, c'est que les personnes qui y participent se comprennent beaucoup mieux quand l'autre reformule ce qu'il vient de dire, ou elle vient de dire.
Ah oui.
Et c'est juste étonnant. Je m'exprime, l'autre reformule. Ah oui, c'est ce que je voulais dire.
Mais c'est le principe thérapeutique, c'est le principe de l'analyse. C'est le principe. Alors, dans la psychanalyse, le grand principe, c'est l'interprétation. Hein, donc, le psychanalyste va proposer une interprétation de l'inconscient au conscient de son patient, mais dans la reformulation, c'est toute la base de la psychothérapie de l'école de Palo Alto. Et en fait, c'est un point tout à fait juste, c'est que si je reformule ce que me dit une personne, et surtout quand il y a des tensions et que c'est un peu conflictuel, c'est le principe aussi de la communication non violente, on arrive à trouver un terrain d'entente, parce qu'on peut s'entendre.
Exactement. On prend ce temps. Donc, j'ai une question peut-être un tout petit peu provocatrice. Vous l'avez appelé le livre du plaisir d'être soi. Pourquoi pas le plaisir ?
Ah, le plaisir tout court ? Parce que tout de suite, ça fait une... plaisir chez l'humain, on pense tout de suite à la sexualité. Et pourquoi pas mais justement, c'est l'origine chez l'être humain de la plus forte notion de plaisir, elle est dans la sexualité. Et c'est un endroit qui peut être caché, douloureux, compliqué, difficile. Et le plaisir, on a tout de suite cette notion donc de jouissance. Je continue dans un peu le domaine de la sexualité. Et je me souviens, quand mon livre est sorti, j'avais été invitée avec un autre auteur qui avait écrit sur le bonheur. Et on avait eu un débat qui nous opposait, et un peu sémantique, sur lui écrivait sur le bonheur, moi sur le plaisir, et un peu provocateur, il m'avait dit « le plaisir, finalement, c'est fugace ». C'est quelque chose, en faisant référence à la sexualité, justement, et disant « le plaisir, en plus, c'est… » un peu prosaïque, voire ça élève pas l'âme, le plaisir. C'est vraiment les bas instincts de l'être humain, le plaisir. Et lui défendait la notion de bonheur, cher à Spinoza, et de la joie, et du principe de la joie. Et je soutiens d'ailleurs ce sujet-là dans mon introduction. J'ai pas voulu que mon livre ait le terme de bonheur, et ça avait été un débat avec l'éditeur à l'époque, parce que, justement, je trouve ça trop conceptuel. C'est-à-dire qu'on cherche tous trop le bonheur comme un état d'être qui serait, pour une fois, définitif. Et cette notion de plaisir, parce qu'il est fugace, parce qu'il vient et qu'il va, en fait, le bonheur est comme ça, mais justement, le mot bonheur convoque trop de concepts, trop d'imagination, trop d'état d'être, et le plaisir est beaucoup plus proche de nous, beaucoup plus accessible, et en même temps extrêmement difficile et douloureux. Parce que pour être dans le plaisir, et alors on le sait sur le plan de la sexualité, il faut être présent justement. Il faut pouvoir tout lâcher, il faut pouvoir, comme vous dites, ne pas s'inquiéter de l'avenir, ni s'inquiéter du passé, être là, être dans la présence. Et le plaisir d'être soi, ce que je définis un peu dans mon introduction, c'est le contentement. C'est être content, parce que quand on a du plaisir, on est content, on est donc heureux. Oui, alors on tire un peu le trait et oui, on arrive au bonheur. Donc un état d'être, on va dire, c'est du bonheur. On va pouvoir le qualifier en étant du bonheur. Mais le ressenti, j'aime ce terme de plaisir parce que c'est du ressenti. Et donc le plaisir d'être soi, c'est être content de qui on est, être bien avec soi, être finalement dans la paix de dire oui, je suis ça, c'est ma vie, c'est comme ça qu'elle est, et je fais de mon mieux, et je fais ce qu'il faut pour, bien entendu, et j'améliore ce que j'ai envie d'améliorer, mais j'arrive à connecter en moi cette joie que finalement, ben, je suis un peu ça, puis je suis aussi un peu ça, et je ne suis plus en guerre contre moi. Donc, le plaisir d'être soi, c'est la fin de la guerre. Ça aurait pu être plutôt la paix, la paix d'être soi ou être en paix avec soi. Voilà. Il y a plein d'idées possibles autour de ça. Mais je tiens beaucoup à cette notion de plaisir parce qu'elle est physique. Et finalement, quand on est malheureux, c'est très physique. Nos ressentis de mal-être, ils sont très physiques. Ils nous plombent. Vous savez, c'est le poème d'Apollinaire... ou de Baudelaire, tiens, j'ai un trou qui commence comme « Quand le ciel bas et lourd pèse sur moi comme un couvercle ». Et c'est un peu ça quand on va mal, cette espèce de couvercle-là, on se sent péché, on se sent traîné, on se sent malheureux, et on se sent en fait. Donc le bonheur, ce n'est pas un ressenti, c'est une pensée, alors que le plaisir, c'est un ressenti.
J'adore cette définition. Le livre est vraiment magnifique, il couvre beaucoup d'aspects qui me parlaient beaucoup. J'avais comme méta-concept qu'il y avait beaucoup déjà de paradoxes avec lesquels il faut vivre, être et faire la paix entre ces deux, enfin souvent opposants qui font la guerre en nous. Et je ne pouvais pas non plus m'empêcher de penser qu'un des plus grands péchés de notre société, c'est le renforcement et la charge cognitive que nous donne l'éducation. Et que l'éducation privilégie davantage les faits, l'étude, l'analyse, l'intelligence, et qui, j'ai envie de dire, surtout en France, est pauvre en matière d'émotion, de sport, théâtre, musique, ça ne fait pas partie du cursus. Et je me dis que ça fait partie des problèmes, c'est qu'on est tellement plus focalisé sur, et on met sur un pédestal, l'intelligence, le cognitif, la performance, la perfection, et ce côté, en anglais j'utilise le mot « messy », de l'être humain, paradoxal, imparfait, parfois sale, parfois des pensées noires, et ça, c'est nous. Or, à l'école, on n'a pas trop accès, on n'accède pas beaucoup cette partie de nous.
Ouais, c'est très juste, et finalement, c'est amusant parce que ce que vous soulignez, ça revient un peu à ce que je disais à l'instant sur le débat qui m'avait opposé à cet auteur. Finalement, il était très dans la tradition intellectuelle et culturelle française à défendre le bonheur philosophique. Qui est très très loin finalement. Alors c'est super, hein, c'est très chouette d'en faire un défi ou un enjeu dans sa vie, mais quand on n'a que ça, on gomme une partie essentielle dont vous parlez, qui est notre ombre. Et c'est ce que Jung, le psychanalyste vraiment des profondeurs, a pu nommer, c'est qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, et que si dans une vie d'être humain on n'est pas attentif à être dans l'alchimie de cette ombre-là, à faire ressurgir nos ombres, à traverser nos ombres. Finalement, c'est ça, le travail intérieur, à aller connecter cette ombre-là et l'amener dans la lumière. Et finalement, qu'est-ce qui génère la lumière? C'est l'ombre. Et il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, tout ça est lié. Donc, c'est vrai qu'on est une société aujourd'hui liée, et dans l'éducation, vous le notez, de la performance. Et la performance, ça veut dire « je dois être parfait ». Et si je dois être parfait, je dois être tout le temps heureux, je dois tout le temps aller bien, je dois montrer une image de moi parfaite, merveilleuse, et donc je n'ai pas le droit. Finalement, c'est presque une négation de notre propre humanité. D'ailleurs, aujourd'hui, on adore les histoires des héros qui faillent, qui tombent, qui chutent, parce que ça nous fait du bien. Et ça, c'est le héros grec. Le héros grec, c'est la figure du héros malheureux, en difficulté, qui se coltine des difficultés avec les dieux, qui ont des défis, des enjeux, et on l'aime pour ça. Nous, nos héros modernes, c'est des espèces de machines Robocop à qui il n'arrive jamais rien et qui réussissent toujours tout. C'est quand même très, très violent pour une âme humaine, cet héroïsme-là. Et moi, je le vois en cabinet, ça rend des gens très malheureux parce qu'ils ont le sentiment d'être jamais à la hauteur, de jamais faire aussi bien. Homme ou femme, d'ailleurs, on dit souvent c'est les femmes, mais voilà, je pense à un homme extrêmement brillant, surdiplômé, etc., qui est dans cette même problématique-là et injonction à tout réussir tout le temps et à s'inquiéter que l'autre ferait mieux et que lui n'a pas sa place. Donc, la logique éducative de la performance, comme on l'a aujourd'hui, alors surtout dans l'éducation française, mais je crois un peu anglo-saxonne. Alors, c'est vrai qu'à l'école, les anglo-saxons, il y avait effectivement plus de sport, plus de théâtre, et je pense que ça apaise les tensions. C'est sans doute moins violent après dans l'âge adulte, parce que ça a permis de faire groupe, ça a permis de créer de l'humanité. Si on éduque des enfants que dans l'esprit et la culture, alors on est dans cette logique de performance, et là, on ne pourra pas faire groupe après, on ne pourra pas créer du collectif soutenant. Donc oui, c'est un point très important.
Et c'est pour ça que je prêche beaucoup sur la lecture de la fiction.
Car en fait, bien sûr,
c'est un moyen de voyager dans d'autres airs, de se mettre dans la pensée, les émotions d'autres. Donc, je peux lire un livre de Madame Bovary pour comprendre une femme.
Entre bien autres, sûr.
Pour l'homme. Vous parlez dans votre livre, et ça, il y avait plein de choses. Mais vous avez évoqué, nous avons évoqué la performance, et vous avez marqué que c'est une valeur factice. Et ça m'a bien, j'ai dû bien réfléchir à ça. Vous pouvez juste expliquer comment et pourquoi c'est une valeur factice, la performance?
Alors, elle est, j'ai répondu par un négatif au départ, elle n'est pas factice quand elle consiste, par exemple, comme dans un sport ou dans un apprentissage, à décider qu'on va vouloir être le meilleur parce qu'on va aller chercher le meilleur en soi pour y arriver, et c'est un peu que le meilleur gagne. Donc, dans les valeurs du sport, on a quelque chose qui n'est pas factice. Moi, il me semble que le souci avec la performance est venu qu'on a été chercher, d'ailleurs des coachs sportifs, mais été chercher les valeurs du sport pour nourrir la performance capitalistique et la performance autour de la gagne, de l'argent et de réussir sa vie. Si la performance, si on prend ce bloc performance et qu'on le met dans le fait de performer dans sa vie et donc de réussir sa vie, là, ça commence à coincer parce que les enjeux ne sont pas les mêmes et ça ne marche pas pareil. Donc, ça pose une question extrêmement philosophique. Hein. Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Mais est-ce que réussir sa vie, c'est être dans la performance? Et c'est là où la performance devient une valeur factice. Parce que chacun pourra avoir une performance extrêmement intime. J'aime bien ce mot-là, mais je crois que ça vient de l'anglais. On parle de performance pour un événement culturel, une scénographie.
De faire une performance. C'est acté.
Et ça, c'est assez beau parce que ça, c'est une mise en scène de quelque chose. Et effectivement, on a fait une performance parce qu'on a mis en scène quelque chose de soi. Et on retrouve donc le sport, mais on peut retrouver toute la culture, on peut retrouver un peintre, un acteur de théâtre qui a été performatif, qui a performé et qui a créé une performance, donc une scénographie autour de quelque chose qui lui tient à cœur. Et là, donc, on est dans un espace. Là, on retrouve un espace dans lequel on performe. Là où la performance devient, alors peut-être pas factice, mais presque dangereuse, c'est quand elle est totalitaire. Quand on attribue la performance à tous les domaines de notre vie et quand la vie d'un être humain doit se résumer à être dans la performance. Finalement, peut-être que dans, vous savez, le verbe être et le verbe faire, la performance va bien avec le faire, elle va pas bien, c'est un mauvais attelage avec l'être. Mettre l'être dans la performance, c'est beaucoup de douleur et beaucoup de violence. Mettre le faire dans la performance, c'est le travail bien fait. Alors, vous qui aimez la littérature, c'est Peggy, c'est Charles Peggy, c'est les bâtisseurs de cathédrales. On peut dire qu'un bâtisseur de cathédrale, quand on lit Peggy, il était dans la performance. C'est-à-dire qu'il était dans le beau, l'art de bien faire, le travail, cette notion de précision dans son art, dans la façon de bâtir. C'était toute une vie. Alors, finalement, un bâtisseur de cathédrale, Peggy a magnifiquement écrit dessus. Ben, on peut dire que ces êtres-là, c'était une vie de performance. Ils étaient dans la performance. Ils performaient tous les jours en bâtissant Notre-Dame, par exemple.
Il me semble que dans la performance, beaucoup, c'est sur des valeurs qui sont appliquées par l'autrui, par la société. Donc, les nombres de likes sur Instagram. Vous avez une maison, donc c'est une valeur extrinsèquement intéressante. Ça montre qui je suis aux autres. J'ai performé, voilà comment j'ai réussi. Mais en effet, le côté intérieur de moi, ben c'est ça, il y a que moi qui connais cette partie-là.
Oui, peut-être, c'est extra le point que vous soulignez, parce que finalement, est-ce que réussir sa vie, donc la performance, c'est aux yeux de l'autre ou à mes propres yeux? Et je crois qu'on est très heureux quand on... on est satisfait, on retrouve le plaisir d'être soi, mais il y a un contentement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vraie fierté ou un vrai contentement de la façon dont on a mené sa vie, parce qu'on a nourri nos valeurs, parce qu'on a été voilà, le meilleur de soi, au meilleur de soi. Et là, on est dans une véritable performance, plutôt que d'avoir été dans la correspondance de ce que les autres voulaient que nous soyons. Et ça, c'est très douloureux. Et dans l'éducation, par exemple, élever un enfant uniquement dans le regard de ce qu'on voudrait qu'il soit, et après le prolonger dans la société de l'image et des médias, c'est là encore de la violence, mais presque un danger. Regarder les acteurs, des grands acteurs qui se sont suicidés ou des stars voilà, qui avaient des vies intérieures extrêmement malheureuses et qui pourtant nous ont donné... à nous, voilà, nous ont laissé des œuvres magnifiques. Voilà, c'est toujours à la fois une grande question et une grande souffrance de voir ces êtres-là de lumière pour nous avoir traversé leurs propres ténèbres et en être morts parfois.
C'est un vrai piège parce qu'en fait, la personne souvent arrive avec des talents, parfois jeune, très beau, très belle, réussit donc avec ça. Rémunération, plein de choses, et avec ça, un cercle réduit de vrais amis, et ensuite une perdition du contact avec la vérité, car en fait, mis sur un pédestal, et puis ça devient difficile à vivre dans tous les jours, c'est ce que je ressens.
Oui, peut-être, il y a une chanteuse maintenant décédée qui, quand j'étais adolescente, était voilà, ma star à moi, alors pas qu'à moi parce qu'on était nombreux, c'était Barbara. Ah oui. Et j'ai beaucoup, voilà, pour avoir été à quasiment tous ses concerts et l'avoir beaucoup suivie, voilà une star, voilà une femme poète, une femme chanteuse qui était sans concession avec l'image médiatique. Et qui même avait une violence envers ça, et qui peut-être a su préserver son territoire d'intime, et qui en a fait cet être hors pair qu'elle était et magique, et qui nous a donné à la fois à entendre, à voir, à ressentir son être intérieur, et qui était en grande souffrance aussi, mais qui connectait avec la nôtre. Et moi, adolescente, c'était fantastique. Je me sentais comprise par elle, par ses chansons, et elle a su chanter la douleur, la souffrance, les combats d'un être humain sans aucune concession. Et peut-être que là, il y a une vérité magnifique. Et voilà, quand les artistes sont là-dedans, quand les artistes sont à cet endroit-là d'eux-mêmes, c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour les artistes parce que la promo, le fait de devoir se montrer, se vendre, etc., ça peut être une grande violence. J'aime beaucoup Édouard Baird et je l'entendais l'autre jour disant « voilà, finalement, c'est affreux, je dois venir parler de mon livre et en même temps, je n'ai pas envie d'en parler ». Et je comprends tellement bien ça parce que quand on a l'impression d'être son propre bâtisseur de cathédrale tous les matins et chaque jour… Venir dire au monde, si, je vous assure, c'est bien ce que je fais, c'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait pour le partager, on le fait pour que les autres viennent à nous aussi. Et Barbara s'arrangeait pour qu'on vienne à elle. Et peut-être que c'est ça qui manque dans la rencontre.
Vous utilisez le mot violence plusieurs fois, là. Il y a un des chapitres, un segment dans votre livre qui m'a beaucoup touché, c'est la notion de trahison. Et ce n'est pas un sujet où je ne suis pas psychologue. Je me suis dit, oh là là, là là, il y a du lourd là-dedans. Mais je voulais juste, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait traiter, mais pour moi, il y a un sujet qui me paraît vraiment très important. C'est la notion de l'individu, donc de se trouver, d'être en paix avec soi-même, mais aussi le besoin d'appartenir, d'avoir une tribu, une famille. Comment est-ce que vous placez ça et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, est-ce que vous voyez qu'on est trop d'un côté ou de l'autre?
C'est quand vous dites d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire trop à
l'extérieur. L'individualisme, ou je pourrais dire le tribalisme, le nationalisme, le communautarisme, tout ce qui fait qu'on appartient à quelque chose.
C'est-à-dire que quand l'individualisme versus communautarisme, c'est une somme d'individus qui font communauté parce qu'ils partagent voilà, le même combat ou les mêmes idées, mais ils restent des individus isolés d'une certaine manière. Et peut-être qu'un rempart contre l'isolement, ça a été la montée des communautarismes. C'est, on va se regrouper parce qu'on partage les mêmes idées, on est des semblables, on va éventuellement combattre, défendre ensemble, et ça va couper court à notre isolement. Pourquoi ? Parce que petit à petit, en fait, les individus on commence à vivre dans leur chair que cet individualisme forcené les a isolés, d'où le besoin de regroupement. Mais quand on est à cet endroit-là, de faire communauté, on peut rester des individus isolés et même créer des tensions très fortes et pas être dans le partage. Parce que ce qui nous fait du bien, c'est d'arriver à ce... Finalement, on parle de réseaux sociaux ou d'Internet aujourd'hui, c'est la connexion. C'est d'arriver à se connecter, alors j'ai envie de dire cœur à cœur, âme à âme, esprit à esprit, c'est-à-dire arriver à partager qui je suis, qui vous êtes peut-être ce qu'on est en train de faire, Minter, vous et moi là, et ça nous fait du bien, c'est-à-dire qu'on va partir dans notre journée ressourcée de notre échange, et j'espère bien sûr pour ceux qui l'écouteront, mais on crée de la ressource comme ça. Pourquoi ? Parce que avec vos propos, ça me fait travailler, ça me fait penser, ça m'oblige à prendre votre idée et à la traduire à l'intérieur de moi pour vous reproposer quelque chose et ainsi nous tricotons ensemble voilà, un échange, une parole et on crée du lien, là on est en train de créer un lien et ça c'est magnifique et ça nous fait vraiment du bien. Par contre, si nous étions côte à côte et qu'on veut chacun faire entendre notre voix sur un sujet, que bien sûr on a le même sujet mais chacun va défendre son petit ego, son soi, on va pas faire ce qu'on est en train, on va pas tricoter, et on va se louper d'une certaine manière, et on va créer de la tension, on va créer finalement, et je comprends pourquoi vous avez connecté avec le mot violence, on va créer le fait de se battre pour avoir son propre espace, et là on recrée de l'individu plus de l'individu. Peut-être, et j'espère, en tout cas, j'ai l'impression que cette pandémie mondiale nous propose de faire lien. Parce comme on ne peut plus finalement manifester ensemble, on ne peut plus se regrouper ensemble, pour ne pas rester dans nos isolements, on se rencontre, on s'appelle, il y a des, je ne sais pas vous, moi il y a des gens que j'appelle, que j'avais pu appeler depuis longtemps, des gens qui m'envoient des petits mails, c'est formidable comme la vie nous reconnecte à certains endroits et on se dit « Oh, qu'est-ce que j'aurais plaisir à revoir cette personne ou à discuter avec elle. Ah, je me souviens de ça. » Et là, tout d'un coup, les liens réapparaissent parce qu'on est peut-être moins encombré dans du communautarisme où on a moins d'espace pour la communauté. On a plus d'espace pour du one-to-one ou du one-to-many, alors quand on fait à plusieurs. Mais en tout cas, on a ce temps-là d'échange, on a ce temps-là d'échange dans les familles, on a ce temps-là d'amitié. On ne peut plus aller au restaurant, donc on se reçoit les uns chez les autres. Le dimanche, le samedi, on va marcher, on va courir, on crée de la rencontre. Et ça, c'est très différent. Il me semble qu'on ne sait pas encore parce qu'on est en train de le vivre, donc on ne sait pas bien. Mais peut-être que des individus, même et c'est souvent dans la douleur qu'on répare, vont peut-être, parce qu'ils sont amenés à vivre en ce moment, réparer des liens ou reconstruire ou renourrir des liens et sortir en tout cas de cet individu forcené où on fait la course tout seul finalement. On court tout seul sur une ligne et puis d'autres courent à côté de nous et on ne se rejoint pas. On ne peut plus courir là en ce moment finalement. On est un peu empêché et un peu dans l'impuissance. Donc, on a besoin de faire ces liens du vivre ensemble. Et donc, ce vivre ensemble, il se crée comme un rhizome, quoi, par petits liens de l'un à l'autre. Et peut-être que là, on va voir, mais peut-être qu'on va muter. Moi, c'est ce que je disais à une émission de télé où m'avez invité, j'ai l'impression que cette situation que nous sommes en train de vivre va peut-être plus nourrir le vivre ensemble. On va ressortir de tout ça avec un vivre ensemble beaucoup plus et mieux nourri que la façon dont on y est rentré. Et peut-être que ça, c'est un grand bénéfice qu'on ne voit pas encore.
Oui, et puis je pense que ça dépendra aussi de notre état d'esprit par rapport à ça. Et parce que vous appelez les gens, mais il y en a plein qui se renferment et qui n'arrivent pas à faire ce pas, ou même one-to-one. Mais Sophie, j'ai adoré le mot tricotage. Donc, c'est un deuxième beau mot que je vais retenir, écoutologue et le tricotage. Ce n'est pas un nouveau mot, mais pour exprimer notre moyen de se connecter, il y a un livre que je ne sais pas s'il a été traduit en français, qui est écrit par un journaliste anglais qui s'appelle Johan Hari. Et le titre du livre, c'est « Les connexions perdues ». Et il parle de sept moyens de se reconnecter, donc avec soi-même, avec la nature, avec les autres, avec le sens et plein de choses. Et donc, je pense que ça, pour moi, ça fait partie des malheurs et des maux de notre société, cette déconnexion qu'on a. On a beau être bien connecté, mais on se sent bien déconnecté vis-à-vis de ce qui est important.
Oui, il y a un philosophe contemporain qui reprend cette étude-là dans nos façons de vivre et qui a inventé un concept merveilleux qui est celui de résonance. Il s'agit d'Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand et qui a écrit d'ailleurs un magnifique livre qui s'appelle « Résonance ». Alors avant, il a beaucoup travaillé sur notre rapport au temps. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que en fait, on, en tant qu'être humain, ce qui finalement c'est un peu la vibration, ce qui nous rend heureux, c'est de raisonner en termes de résonance, c'est-à-dire de pouvoir ressentir corps, âme et esprit, hein, aussi bien dans notre mental que dans notre corps physique et aussi dans notre cœur, dans nos émotions à trois niveaux, ce qu'on est en train de vivre. Mais ça peut être la nature. Alors souvent dans la nature, on entre en résonance. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapie avec les arbres, etc. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où un être humain arrive. Voilà, les animaux, absolument. Donc, c'est la connexion dont vous parliez, c'est aussi ce concept de résonance. Et que, en fait, les gens qui vont bien, c'est ceux qui se mettent en résonance. Mais souvent, quand on est malheureux et quand on va mal, on n'est plus un instrument comme un violon ou un violoncelle, voilà, c'est ces instruments qui résonnent beaucoup, hein, qui ont des vibratos parce qu'ils ont un espace intérieur justement vide avec des cordes. Ben, en fait, il n'y a pas de vide chez ces êtres-là parce qu'ils sont trop encombrés, trop malheureux de leur propre malheur. Et vraiment, si on pouvait, vous, moi, tous les êtres qui voilà, essayons de d'aider l'humanité dans ce sens, enfin d'allumer un peu des petites lumières, leur dire mais s'il vous plaît, enfin moi je vraiment c'est un message que j'aime passer, c'est ne restez pas seul quand ça va mal, quoi. Votre parole est importante, elle doit être entendue. Un être humain qui va mal, il a besoin, il doit être entendu par un autre être humain et il rendra service à cet autre être humain qui l'écoutera parce que justement, il y aura cette résonance, il y aura cette connexion, parce qu'on est indissociable. Un être humain qui va mal, c'est toute une civilisation qui va mal. Comme un être humain qui va bien, bah, il aide toute une civilisation à aller bien. Donc, comme nous sommes en connexion permanente dans nos inconscients, c'est extrêmement important. Il y a une écologie humaine à mettre en place, hein. On parle de soigner la Terre, soignons-nous nous aussi. Et soyons dans cette écoute et dans ces liens et ne restons pas seuls quand ça va mal. Il n'y a pas de honte, parce que le problème de quelqu'un qui va mal et qui s'isole, c'est qu'il est dans la honte parce qu'il s'imagine qu'il devrait aller bien. Et non, il va mal. Et c'est OK d'aller mal, c'est OK que ce soit difficile. Quel est l'individu qui peut dire « Ah non, non, mais moi, dans ma vie, j'ai aucun problème, tout va toujours très bien. » C'est archi faux, voilà.
Non, seulement c'est archi faux, enfin, ça ne nous connecte en rien, enfin, c'est juste une espèce d'idéalisme, et puis je me retrouve pas dedans, parce qu'en fait, je suis imparfait, tout le monde le sait, mais c'est difficile de le dire, en revanche. Car en fait, quand on est face à une public qui nous juge, il faut avoir une certaine confiance en soi pour arriver à montrer, parler de ses vulnérabilités. Je suis invité souvent dans des conférences, et là, récemment, souvent, c'est on va parler du mal-être. Et je voudrais que vous commenciez avec des choses qui sont mal passées. Et là, ce n'est pas prétendre un truc où j'ai été trop perfectionniste, j'ai essayé trop. Non, là, là, on arrête ce discours-là. On va parler de pleurs, on va parler de mal-être. Et en fait, ça fait connexion terrible, vraiment fort, ah oui, avec les autres.
Ah bah oui. Bah oui. Oui, pourquoi ? Parce que quand on ne va pas bien et qu'on a, alors pour le coup, la conscience qu'on a besoin de parler à quelqu'un, on prend son téléphone, on appelle un ami, une amie, et on se confie, et on dit « voilà ce qui m'arrive ». Et qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je suis malheureux. À quoi ? Ou on va voir un psy, mais voilà, en fait, on se connecte dans nos malheurs, et on adore ça quand on est entre amis, de parler de nos difficultés de vivre. C'est ça qui finalement, à quel endroit on est heureux de finalement de faire groupe, de faire lien, c'est dans notre difficulté de vivre. Là, on s'y retrouve, on est ensemble. Ça nous parle. Et aussi parce que, et c'est très humain aussi, on cherche des solutions, on cherche tous à aller mieux. On a tous cette quête-là. C'est pour ça que je suis toujours un peu agacée quand il y a trop de discours sur le bonheur ou sur le aller bien. Parce que bah là aussi, je vais reprendre le mot violent, je trouve ça assez violent, parce que c'est faire violence à des individus qui ne vont pas bien, qui se disent « ah oui, mais alors moi, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, c'est trop loin de moi ». Ce n'est pas juste, c'est une véritable injustice qu'on nous fait là, de nous vendre. Et c'est pour ça que je ne veux pas du mot bonheur, on ne doit pas nous vendre le bonheur. Enfin, on l'a à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin de nous le vendre. On est animé par ça. L'être humain est naturellement animé par le bon, le beau, le bien. On est tous en quête de ça. Et c'est justement quand on n'y arrive pas qu'on est très malheureux, mais on ne va pas aller se l'appliquer sur étagère. On va transmuter finalement notre souffrance. Et c'est la transmutation qui nous rend heureux. C'est la transformation de soi. Tout ce qui nous rend heureux, c'est quand on se transforme, en fait. C'est la chenille qui devient papillon et qui est magnifique et qui vole. Ça, vraiment, ça nous rend fondamentalement heureux.
Parmi d'autres sujets, il y a quelque chose qui me trottine. C'est que vous parlez beaucoup du courage et le besoin de ce courage pour être soi-même, pour s'affirmer. Et j'ai l'impression quand même qu'on préconise beaucoup dans notre société la précaution. On parle en France de capital risque, pas la capital venture, aventure, comme on fait en anglais, la notion de risque, précaution. Et donc, ça ne m'amène pas à prendre le risque, le pas, avoir le courage d'aller de l'avant et d'accepter le plein moi, enfin le moi avec mes imperfections.
Ah oui, c'est tellement juste. C'est nous, on a inventé le risque zéro, hein, et le principe de précaution. Donc, c'est très français. Et c'est en train de nous rogner les ailes. Et on l'a vu aussi, hein, avec la gestion de la pandémie. Alors, c'est important. On ne sait plus d'ailleurs où situer, parce que voilà, je ne suis pas médecin, je ne peux pas dire ce qui convient. On a eu juste le sentiment qu'il y avait une façon de nous donner pardon, ces règles-là. Comme à des enfants, c'est-à-dire le problème de la précaution ou du risque zéro, c'est le danger d'infantiliser des adultes qui vont finalement avoir peur de tout et ne pas pouvoir se faire confiance. Parce que pour accéder avant la marche du courage, avant cette étape courage, il faut pouvoir connecter la confiance. Je ne peux être courageux, je ne peux faire un acte de courage que si j'ai quand même confiance dans ma capacité à y aller. Et là, je pourrais actionner le courage quand j'y serai. Le courage, il s'actionne au moment où je suis dans l'événement, dans ce que j'ai à faire. Alors, je vais aller chercher mon courage. Ça y est, je suis déjà engagée quand je connecte mon courage. Mais en amont de l'engagement, il faut que je travaille ma peur et donc mon acceptation du risque. Et donc, forcément, une forme de confiance et d'estime. Mais la confiance, c'est quoi ? C'est la capacité de faire. Et souvent, on confond la confiance et l'estime. L'estime, c'est la valeur que je me donne. Et l'estime de soi, ce n'est pas la confiance en soi. Et souvent, les gens vous disent « Ah, je n'ai pas confiance en moi ». Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en eux, c'est qu'ils ont une estime d'eux trop faible. Et on pourrait dire que c'est un pulse où tout ça marche ensemble. On pourrait même faire un chemin, c'est-à-dire dire en premier l'estime de soi, pouvoir se donner de la valeur. Si j'ai de la valeur, alors je peux créer de la confiance parce que je peux me sentir en capacité d'eux. Et si je réussis ce que je suis en train de faire, de faire et pas d'être, à ce moment-là, je crée de la confiance, j'ai confiance, je vais pouvoir y arriver, ça va marcher. Et si donc j'ai confiance, ben, je vais pouvoir me lancer. Quand je vais me lancer, au moment où ce sera un peu difficile, ben, je pourrai aller chercher mon courage. Et là, j'irai, voilà, avec, je prends mes deux mains, là, hop, je prendrai mon courage à deux mains. On dit prendre son courage à deux mains, d'ailleurs. Et quand je serai dans cette action-là, cette action de faire, mais qui me mène à l'être, à ce moment-là, je nourris mon être de la plus belle des façons, parce que je suis dans le vivant, dans l'engagement de la vie. Et que le problème du risque zéro ou de la précaution, on est dans la survie. On propose aux gens de la survie. La survie, ce n'est pas la vie. La survie, c'est connecter tout au négatif, j'ai envie de dire.
Mais c'est la
survie. Vous croyez que vous vivez. Pardon, c'est la survie.
C'est la survie.
Bravo. Voilà. On croit que c'est plus de vie, la survie, parce que dans la survie, le mensonge ou le malentendu, c'est qu'on tient en force. Alors, on sent vivre. Ah là là, qu'est-ce que je vis? Je survis. Ah bah oui, ça, c'est difficile de survivre. Mais alors, on tient la balustrade à deux mains. Et on a l'impression, mais c'est qu'une impression, c'est une illusion même, qu'on tient à deux mains son courage, sa confiance, son estime. Voilà, je tiens tout, je survis. Non, on est totalement asphyxié, on est en apnée totale.
Il n'y a plus de et sang dans les mains, tellement ça devient blanc.
Absolument. Et là, on est dans l'illusion qu'on a connecté tout ça et on n'y est pas du tout. Et souvent, à un moment donné, ça lâche. Et quand ça lâche, on dit, mais je ne comprends pas, je tenais tout là. Pourquoi ça a lâché? Ça a lâché parce qu'on était dans la survie et pas dans la vie. La vie, c'est fluide. La vie, j'ai presque envie de dire, presque un gros mot, facile. Facile dans le sens fluidité, il y a une simplicité. On sait qu'on y est parce que les choses s'enclenchent comme ça. C'est ça. Il y a une forme de facilité parce que c'est une forme d'art quasiment. Là, c'est d'art spirituel, et les choses s'emboîtent. Mais pour tout ça, quel travail.
J'aurais voulu parler de l'empathie. En tout cas, je vais signaler que votre manière de parler de l'empathie était extrêmement forte et j'ai vraiment apprécié. Donc, j'encourage tout le monde, pour d'autres raisons, bien entendu, mais aussi pour l'empathie, c'est un sujet qui me trottine. Mais pour la dernière chose dont je voulais vous parler, vous avez évoqué la notion du chemin, parler de la boussole de la vie, vous évoquez Viktor Frankl, avec ses façons de définir comment chercher du sens, citer l'accomplissement, l'amour et la transcendance. Est-ce que c'est possible d'avoir le plaisir si on n'a pas un sens? Et puis si je n'ai pas un sens, comment je fais pour l'avoir?
Ah, merci, j'adore votre question. Ça me touche beaucoup parce que c'est une question qu'on entend beaucoup en tant que psy, en thérapie, le sens de la vie. Et je peux partager ça avec vous. Et je dois dire que moi-même, dans ma jeunesse, pendant très longtemps, j'ai imaginé que la vie avait un sens et que c'était de ma faute si je ne le trouvais pas. Et donc, c'était vraiment une marche dans les ténèbres. On a ça très, très bien raconté et décrit chez Charles Juliette. Peut-être que vous connaissez dans son journal Atim, voilà, dans les ténèbres, etc. Et c'était très douloureux parce que je me disais, bah, il n'y a que moi qui ne trouve pas le sens, il y en a forcément. Alors, ce qui était magnifique, c'est que ça m'a permis de lire beaucoup dans cette quête de sens, jusqu'à comprendre dans le travail que j'ai mené sur moi un jour, que c'était à moi de donner un sens à ma vie. Et là, je rencontre Frankl à ce moment-là. Et c'est vraiment, ça a été comme un changement de paradigme. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi qui croyais que c'était moi qui ne trouvais pas le sens, d'un coup, je disais, mais la puissance est chez moi, je ne suis pas impuissante, c'est que j'ai à donner un sens à ma vie et c'est moi qui vais le donner. Et il est extrêmement intime et personnel. Et plus je vais nourrir ma vie de sens et mes actions de sens, c'est-à-dire plus je vais être en conscience de pourquoi je fais les choses. Et finalement, c'est ça le sens de la vie, c'est je mets ma conscience dans ce que je suis en train de faire. Je décide, je choisis. Et dans chaque action de ma vie, dans mon quotidien, tout ça nourrit le sens qu'a ma vie. Vivre à tel endroit, faire tel métier, être en couple ou pas, avoir ou pas des enfants. Là, je parle de choses très prosaïques, mais voilà, échanger avec vous, le sens que je vais donner à notre échange, et je suis déjà en train d'en donner un pendant que je vous parle. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'il y a quelques minutes, ça m'est venu tout seul. Et voilà, et ça, c'est fondamental d'accéder à ça. Et ça me touche d'autant plus que, vous voyez, la patiente que j'avais hier soir, on a parlé de ça justement. Elle m'a dit, vous me parlez souvent de trouver ma vérité, c'est quoi ma vérité, c'est quoi le sens de ma vie? Et je lui dis, c'est ce qui est vrai pour vous. Et on peut regarder qu'est-ce qui fait votre vérité. Tout d'un coup, elle s'est mise à connecter plein d'éléments. Donc elle a dit, mais c'est tout simple. Ben oui, c'est tout simple. Mais c'est une telle connexion à soi. Donc, c'est essentiel. Et pourquoi ça m'est venu de Frankl, et vous le savez, c'est que quand Frankl, qui était donc déporté à Auschwitz, et je rappelle que c'était donc un grand psychiatre, psychanalyste du contemporain de Freud, et qui a été malheureusement déporté à Auschwitz, et qui en a réchappé, j'ai envie de dire, Dieu merci, parce que son apport est extrêmement aidant et fort, et qui a écrit la thérapie par le sens, il a été à l'origine de son mouvement, la logothérapie. Mais surtout, dans les baraquements, il a compris que ce qui ferait tenir les individus dans ces camps de concentration, c'était le sens qu'ils donnaient à leur vie à un moment donné où la vie n'avait plus de sens. C'est-à-dire que dans l'absurdité la plus totale de ces baraquements, il s'est rendu compte que ceux qui continuaient à vivre envers et contre tout, les mauvais traitements, la difficulté, etc., c'est ceux qui s'accrochaient de toute leur force au sens qu'avait leur vie. Et ceux qui tombaient malheureusement dans l'absurdité ou qui disaient « c'est trop horrible » et ou qui donnaient un sens trop court, qui disaient « le camp va être libéré telle date, mourrait le lendemain », c'est passionnant, vraiment, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à lire Viktor Frankl, et ça s'appelle « Donner un sens à sa vie », son livre. Et on comprend, et parce qu'il a écouté, et il a fait des groupes de parole, en fait, dans les baraquements à Auschwitz, c'est une partie fantastique parce que c'est là qu'on comprend et qu'on connecte en profondeur qu'un être humain a un sens très très personnel. Et lui, par exemple, ce qu'il a fait tenir, c'est qu'au moment où il a été arrêté, il avait sur lui ses petits carnets où il y avait toutes ses œuvres, ses recherches, le futur livre qu'il allait écrire. Il avait, voilà, et donc tous ces carnets ont disparu. Et alors, il essayait de se connecter le plus possible en profondeur, en fait, de se souvenir de ses écrits pour pouvoir les publier en sortant. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça, voilà, et là, on sent la force de vie. On parlait de survie tout à l'heure, là on est dans la force de vie. Donc donner un sens à sa vie, et j'encourage là tous ceux qui nous écoutent, allez chercher le sens qu'a votre vie, donnez-le lui à cette vie-là. Vous allez voir, vous allez plus que voir sentir, ressentir le plus de vie que ça fait, parce que quand on ne donne pas de sens, on survit justement. Et une vie dans laquelle on survit, c'est celle qui n'a pas de sens. Mmh. Et donc on ne peut pas continuer très loin.
Ce que j'adore dans ce que vous proposez, le fait que je suis un grand fan de Frankl aussi, cette espèce de agentivité, que je suis agent, je suis acteur de mon sens, et comme vous dites dans votre livre, je dois interpréter les choses, et ce n'est pas malgré la violence de ce qui se passe, c'est avec cette violence que je me façonne, parce que les violences, ça peut être des imperfections, des malheurs, ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est comment j'agis par rapport à ce qui m'arrive qui me crée. Et c'est parfois ça, c'est comment moi je perçois les choses. Sophie, j'ai l'impression qu'en tout cas, je pourrais continuer à parler avec vous, à échanger, à merci. Converser. Comme vous dites, quand on converse, on connecte. Quand on converse comme ça, on arrive à chercher des pensées en soi-même, en réflexion, en écoutant l'autre. C'est très joli, c'est énergisant pour moi. J'apprécie beaucoup.
Pour moi aussi.
Comment est-ce que quelqu'un pourrait vous suivre, ou bien évidemment acheter votre livre, vous trouver pour vos services? Comment vous préférez que les gens connectent avec vous?
On me trouve sur les réseaux sociaux habituels, hein, LinkedIn, Facebook, Instagram, où je
n'ai pas. Wikipédia au passage.
Pardon. Ah oui, yeah, yeah, oui. C'est pas moi qui l'ai faite, donc il faudrait que voilà, j'aille voir. mais je suis facilement accessible. Il faut absolument que j'avoue, je n'ai pas encore de site internet. J'avais commencé, je procrastine à ce sujet. Et il faudrait effectivement que j'en crée un, mais ça fait partie de mes projets. Je suis en train d'écrire un autre livre, mais ça me prend un petit peu plus de temps que prévu. C'est aussi ça, une vie d'être humain. Ça se passe pas toujours comme pas on voudrait, mais comme on imagine que ça devrait se passer, parce que voilà, il y a la vie qui est là en même temps, et dans cette notion du temps, et peut-être que c'est ça qui compte. C'est, j'ai l'impression que on rencontre, dites où est-ce qu'on peut me trouver, mais je pense que quand on a besoin de me trouver, on me trouve. Et vous savez, alors il y a, c'est pas prétentieux, mais j'aime beaucoup cette phrase-là parce que moi, en fait, elle m'est chère parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. On dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et les maîtres que moi j'ai rencontrés dans ma vie sont apparus au moment où j'étais prête. Et les moments où je ne les ai pas rencontrés, c'est que je n'étais pas prête. Et je peux aussi l'être pour d'autres comme une longue chaîne, c'est-à-dire j'ai les miens, voilà, et je peux l'être pour d'autres, et ainsi de suite, et ces autres-là peuvent l'être pour d'autres. Et dans cette grande chaîne-là, j'ai l'impression qu'on se rencontre toujours au bon moment. C'est un sentiment très... c'est difficile à décrire, hein, j'ai ça en moi, mais je me suis rendu compte en tout cas que dans ma vie, ça s'était passé comme ça. Et qui et c'est très jungien, ça, c'est que tout est juste, tout arrive à un moment donné où ça doit arriver, où on est prêt, et que de forcer le je crois pas que le passage en force aille vers de l'authenticité. En tout cas, j'ai pas envie de le vivre comme ça, moi, peut-être. Donc je suis là et hyper accessible, parce que quand on m'envoie un mail, on me contacte, je réponds, vous le savez, Minter, parce qu'on s'est connecté comme ça. Voilà, je réponds toujours. Et puis, je réponds, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais au courrier psycho de version Femina le week-end. Et on peut aussi me contacter par le biais du journal, bien sûr.
Je vais mettre tous ces liens dans mon show notes. C'est vrai que vous parlez d'être un maillon dans une grande chaîne, quelque part. Et puis, c'est avec une...
Oui.
Écrivez. Puis c'est ça aussi qui nous ramène à un sens, c'est-à-dire qu'au final, nous avons tous une fin devant nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant et comment on va transcender l'ego pour savoir notre place, trouver notre place dans cette vie, dans cet univers, et comme souvent Hervé, je remercie Hervé une dernière fois pour nous avoir mis en route.
Merci Hervé, oui. Merci Minter, et merci voilà, de cet échange, de ce moment passé ensemble, parce que pour moi aussi voilà, au moment où on se parle et qu'on est dans cette situation mondiale particulière, c'est important, c'est des petits ou des grands rayons de soleil, voilà. Donc merci Minter pour ce beau soleil intérieur. Merci
de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
Stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die suburb. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man. my lines. I'm a convinced man, here in these confines, a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready for an arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman.
Hello, this is Gary Chachot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.